moi, c'est quelques sujets de prière qui ont été évoqués. Je voulais apporter Valérie et sa famille, Seigneur, avec la perte de sa sœur. Accompagne-la, guide-la et aide-la dans son témoignage auprès de sa famille pendant ces moments difficiles. Je te remets aussi la sœur d'Hélène, Seigneur. Là aussi, Seigneur, tu peux faire œuvre de salut. Et je te prie pour Hélène par rapport à son témoignage qu'elle va avoir et le soutien qu'elle va pouvoir apporter à sa sœur, Seigneur, dans les jours et les mois qui viennent, Seigneur. Merci, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et vraiment bénis cette soirée et dirige Josias dans la parole et dans ce qu'il va nous apporter au niveau de l'étude. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Alors, juste une petite demande d'Hélène, elle enregistre. Donc, quand vous intervenez, essayez de parler assez fort, voilà, pour que, voilà, on puisse entendre. Et si jamais vous voulez après les enregistrements des études, elle vous les enverra par mail.
Mais il faudra me donner votre mail.
Voilà. Alors, juste là, avant là, de commencer, on voudrait vous proposer donc toute une série d'études qui va nous amener pratiquement jusque fin mai. Sur les doctrines que l'on trouve dans la parole de Dieu, les bases. Et je vous ai juste... Alors, mon PowerPoint, malheureusement, je suis obligé de tourner la tête, je ne sais pas, je n'ai pas bien réglé, et je ne l'ai pas là. Donc, je vais essayer de me débrouiller. Mais juste, je vous montre un petit peu voilà, le planning, on va dire, pour que vous sachiez ce que l'on va aborder. Alors... On le fait toujours sur deux soirées, donc aujourd'hui et puis mardi prochain, Dieu voulant, on va voir la révélation. Alors là, je ne vous en dis pas plus, puisqu'on va le voir. Donc, le troisième et quatrième soir, on va voir, alors le sujet, c'est Dieu. Alors, c'est très, très, bon, on est très optimiste, hein, mais on ne fera qu'un survol. Déjà, bon, mais Dieu, il est infini. Et même si on y passait toute notre existence, on n'arriverait même pas à creuser un petit peu. Mais bon, Dieu se révèle aussi, on va le voir ce soir. Et il y a des choses tellement encourageantes. Alors, je ne sais pas qui c'est qui s'y colle, si c'est Georges. Donc, hein, ce sera Georges, Jean, moi, peut-être un petit peu Benjamin aussi. Voilà, hein. Donc, Georges, bon courage, parce que là, il faut faire des choix, en fait. Hein.
Tu as commencé. J'ai juste vu et parlé de Dieu avec nos paroles humaines. Heureusement qu'il y a la parole qui est la parole que Dieu se révèle.
Rien que tous les noms de Dieu dans la parole, ben déjà c'est un enseignement extraordinaire. Le Dieu trinitaire, etc. Donc voilà, ça sera les prochaines fois. Ensuite, on aura deux soirs aussi sur la création. Alors on va en parler un petit peu ce soir, mais ça sera beaucoup plus approfondi. Et donc là, ça sera normalement Jean, je pense. Voilà. Mais après, on ne s'est pas forcément fait le planning de qui fait quoi. Hein. Voilà, et puis la chute. Alors, le salut, on l'a divisé en deux parties. Une première partie, le salut dans l'Ancien Testament. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, entre autres avec le tabernacle qui nous montre, qui est une image merveilleuse de Christ, mais aussi la grâce que l'on va trouver dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qui sont tellement encourageants aussi. Et puis, l'incarnation. Alors, juste, je voudrais aussi vous préciser quelque chose avant d'oublier. C'est que là, quand on aborde les questions de doctrine, alors bien entendu, par exemple, l'incarnation, si quelqu'un venait à dire, Jésus n'est pas venu réellement en chair, on sait que ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Hein, là, on est absolument intransigeant. Par contre, on va après aborder aussi d'autres doctrines. C'est pareil, si quelqu'un veut ajouter au salut par grâce des œuvres, là aussi, on ne va pas l'accepter. Mais il y a d'autres doctrines où on peut avoir des compréhensions différentes. Et quelque part, ce n'est pas un problème. Hein, on va savoir toute chose lorsqu'on sera dans les cieux. Et ce que l'on voudrait faire, c'est vous exposer la compréhension de l'Église, mais pas dans le but que de vous dire ben, il faut l'accepter, point barre. Non, non, non. C'est plutôt pour que vous puissiez la connaître, vous donner aussi des versets, que vous puissiez aussi réfléchir là-dessus, et soit rester avec vos positions si jamais vous comprenez différemment certaines doctrines, ou alors peut-être eh bien, vous, vous poser des questions, ou même nous apporter aussi mais, votre point de vue, bien entendu. Hein. Et là aussi, l'étude biblique, ce n'est pas quelqu'un qui parle, et sentez vraiment, vous vraiment libre d'intervenir aussi, c'est quand même beaucoup plus sympathique quand il y a aussi des partages. Voilà. Donc voilà, les points de doctrine, on va dire entre guillemets secondaires, il faudrait discuter là-dessus, ne doivent absolument pas devenir un point de crispation. Et vraiment, la communion fraternelle est tellement importante, c'est une grâce de Dieu, et on veut vraiment remercier le Seigneur pour cela. Et on peut avoir, et la communion fraternelle le permet, on peut avoir des compréhensions différentes tout en étant tellement heureux d'être ensemble. Voilà, et c'est ce que vraiment on veut, et c'est ce qui se produit avec plusieurs sujets, et on les verra, hein, et que vraiment que le Seigneur nous dirige aussi dans cet état d'esprit, hein, de vraiment accepter qu'on comprend la parole de Dieu qui est infinie, on va la comprendre des fois avec des façons un petit peu différentes. Alors, le salut de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça sera aussi deux soirs. La vie chrétienne. Alors là aussi, on est très très optimiste, mais à mon avis, on fera des raccourcis. Voilà, parce que rien que la sanctification, le Saint-Esprit, il y a tellement de choses à dire aussi. Et puis la certitude du salut, là aussi, il y a tellement de versets. Rien que ça, les anciens se souviennent, on l'avait vu sur, je pense, 3-4 soirées. Voilà. Donc forcément, on fera juste un petit survol et on vous donnera aussi des versets également pour que chacun ait après l'envie de rechercher ensuite, d'approfondir chez lui. 13e et 14e soirée, donc ce sera l'Église. L'Église, bien sûr, avec le E majuscule, l'Église universelle. Et puis l'Église locale qui est, on va dire, un condensé un petit peu hein, de l'Église, en tout cas la partie visible pour nous de l'Église universelle. De l'épouse. Et puis, les temps de la fin, là aussi, tellement de choses à dire. Hein. On parlera également du millénium. Il y a aussi la tribulation. Là aussi, beaucoup de points différents, hein, de compréhensions différentes. Donc, on vous exposera notre compréhension. Et puis, voilà. Et puis, ça sera les temps de la fin de l'année scolaire, de toute façon. Donc, ça sera, je pense, fin mai. Et puis, après, comme il y a aussi la fête de la musique, etc., je crois qu'en juin, ça sera terminé. Alors, juste quelque chose aussi à vous préciser. C'est une proposition. Si vous aviez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à venir nous en parler. Est-ce qu'on pourra les inclure? En tout cas, si on peut, on le fera. Voilà. Et ça peut être aussi enrichissant. On est prêt à modifier un petit peu le planning si jamais il y a des sujets voilà, que vous voudriez qu'on puisse aborder. Donc, voilà. Hein. Donc ce soir, et mardi prochain du roulant, la révélation, et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vous présente un petit peu le plan, on va essayer de le faire sur les deux soirs, je ne me suis pas fixé de limite là pour ce soir, on verra ce qu'on peut faire. On ne va pas le faire au pas de charge, histoire de finir à tout prix, hein, mais vraiment, donc dans ce cas... Ne sentez-vous libre d'intervenir si jamais vous le souhaitez. Donc une révélation, c'est absolument nécessaire hein, pour connaître le Dieu infini, mais on va se rendre compte qu'il y a des limites dans la révélation. Et ça aussi, c'est quand même assez intéressant à réfléchir là-dessus. Après, Dieu se révèle de plusieurs manières. Une des façons, c'est la création. On va juste l'aborder avec Jean dans... Donc trois études là, ou quatre études, on le verra un petit peu plus de façon un peu plus approfondie. Il y a aussi la conscience qui est là. Et puis on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des révélations très particulières. Et Dieu, finalement, n'est pas limité. Et on voit dans sa parole qu'il a utilisé de multiples facettes pour pouvoir se révéler à ses enfants. Et ça, c'est bien aussi de l'aborder. Et puis après, le gros morceau, bien entendu. Alors, la révélation suprême. Hein, Dieu qui se révèle de façon... le sommet, c'est quoi hein, c'est Hébreux 1 qui nous le dit. Hein, Dieu s'est révélé par le Fils. Bien entendu, hein, ça j'aurais dû vous le dire dès le départ. La révélation suprême, celui qui nous permet de connaître Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père, bien entendu. Mais pour connaître Christ, eh bien, il va se révéler aussi de façon différente. Et bien entendu, la principale révélation, c'est par l'Écriture. Donc là, on va essayer de parler de l'inspiration des Écritures. Le canon biblique aussi. Pourquoi nous, on a 66 livres, alors que les catholiques, je crois de tête, en ont 7 de plus. Et je crois que même certains orthodoxes en ont, me semble-t-il, jusqu'à 79. Là aussi, c'est quand même intéressant aussi de savoir sur quoi se base le canon biblique des protestants, hein, entre guillemets. Et puis, quelques règles d'interprétation, là aussi. J'aurais bien aimé aussi qu'on puisse voir aussi les différentes versions. On a cette bénédiction d'avoir plein de versions différentes. Et je trouve que c'est vraiment dommage de vouloir se cantonner à une seule version. Et des fois, on a ce réflexe de vouloir avoir une seule version, celle qu'on a depuis toujours, alors que c'est tellement intéressant, peut-être d'avoir une version de base pour la lecture linéaire, on va dire, et puis après de comparer avec toutes les versions que l'on a, qui sont une richesse aussi. Et qui parfois, un verset que l'on connaît par cœur, dans la version que l'on a l'habitude de prendre, eh bien, prend une autre couleur lorsqu'on le regarde dans une autre version. Et ça vaut vraiment le coup, là aussi, de profiter de tout ce que Dieu nous donne comme richesse au niveau de sa parole. Voilà un petit peu le programme. Alors, la nécessité d'une révélation. Il y a un premier verset que l'on pourrait prendre, ou je vais vous le lire. Je vais vous le lire celui-là, et puis après on pourra quand même en prendre, ça sera quand même plus simple. C'est dans Ésaïe au chapitre 55, les versets 8 et 9, vous le connaissez. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, rien que là, hein, rien qu'avec ce verset, d'autres aussi peuvent également nous orienter dans ce sens, on comprend que si Dieu ne se révèle pas, ben pour nous, on est perdu. Hein, c'est absolument impossible de pouvoir l'appréhender, ne serait-ce qu'un petit peu, avec nos propres capacités. Donc, c'est Dieu qui se révèle. Si on se rappelle dans Job, au chapitre 40, Dieu va prendre la parole. Et il va s'adresser à son serviteur Job, et quelque part, il va lui dire, puisque avec ton tout ce que tu as dit, mais parle et instruis-moi. Moi qui suis Dieu, le Créateur, tu me parles. Et parle-moi alors, et puis il va donner plein d'exemples au niveau de la nature. Est-ce toi qui as fait ceci, qui as fait cela? Est-ce que tu vas prendre à la meçon le crocodile, etc. Vous connaissez ces passages. Et c'est un long discours de l'Éternel. Et puis au chapitre 42, Job va dire quelque chose de tellement important qui devrait être toujours notre position. Il va dire, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne comprends pas, que je ne conçois pas. Donc, en fait, Job dit, mais oui, avec ma propre intelligence, finalement, j'ai voulu parler de l'infini. Et Job va se repentir. Et Job va se repentir. Et quelque part, c'est aussi vraiment ça doit être notre position. Avec nos propres capacités, il est absolument impossible d'avoir une révélation au sujet de Dieu. Quelqu'un a dit, la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître ou communique la vérité à l'intelligence. Alors, révélation, vous connaissez le terme en grec, vous parlez tous parfaitement grec, hébreu. Aréma. Comment?
Aréma.
C'est plus simple, c'est très très simple. Est-ce que, alors, je ne sais pas si quelqu'un, si vous avez peut-être l'intention d'apprendre et le grec et l'hébreu. sinon, si vous êtes un petit peu feignant comme moi, et puis si les langues, ce n'est pas votre tasse de thé, est-ce que vous connaissez les numéros Strong? Oui, certains oui. Pas tous. Alors, c'est quelque chose, on prend juste quelques minutes, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 utile. Je vous montre ce que c'est. Ça existe sous format papier, dans certains logiciels, sur des applis au niveau du téléphone. Mais ça existe aussi en ligne. Moi, c'est ce que j'utilise. Je vais donc, je m'en vais de là. Je vous le montre. Oui, j'ai du réseau. Alors, j'enlève mon PowerPoint, je vous montre ça. Est-ce que ça va marcher? Non, donc je rechange.
Tu dupliques l'écran.
Pardon?
Tu copies l'écran.
Voilà. Pourquoi il ne veut pas se copier, lui? Ah, pardon. Dupliquer. Voilà. Ça va arriver. Voilà. Alors, moi je l'ai ici. Alors, il y a plusieurs sites. Hein. Il y a plusieurs sites, c'est gratuit. Moi je vais sur celui-ci. Donc, vous l'avez là. Alors, je ne connais pas trop ce site en fait. J'utilise que l'outil pour la Bible. Là, c'est un site charismatique. Donc, sans porter de jugement de valeur, hein, pas du tout. Mais bon, voilà, pour que vous le sachiez. Et donc, vous avez bon, la Bible avec plusieurs traductions. Alors, si je prends. Bon, je vous montre, je ne me rappelle plus les versets que je voulais prendre. Je vais les trouver peut-être ici, comme ça vous voyez. Luc 2, 32. Alors je prends Luc 2, verset 32. Alors vous voyez qu'ici vous pouvez comparer les versions. Donc ça c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là on a, bon, elles ne sont pas très nombreuses, mais on a quand même tous les versets avec les versions différentes. Ça peut nous aider au niveau de notre étude biblique. Mais le truc super, c'est le numéro strong. Alors, Luc, c'est le verset 32. Merci. On ne se moque pas. Vous voyez que chaque mot a un petit numéro. En fait, l'original en grec a été numéroté. Et pareil pour l'Ancien Testament. Alors bon, vous savez que l'Ancien Testament est en hébreu, il y a juste un tout petit peu, hein, quelques petits passages qui sont en araméen, là par contre ils n'y sont pas, mais après tout ce qui est en hébreu on l'a. Et vous voyez, je prends par exemple donc éclairé, c'est le numéro 602, donc Apocalypse, c'est plus simple. Donc voilà, révélation, Apocalypse. Et je regarde là, sur en savoir plus, il y a donc la définition. Donc ça c'est déjà intéressant, mais surtout ce qui sert le plus, c'est que vous avez tous les versets où ce mot grec va se trouver. Et comme ça vous pouvez regarder comment il a été traduit. Et des fois ça vous permet de comprendre certaines choses, également ça vous permet aussi d'éviter certains écueils, quand on vous a présenté un verset en vous disant « mais là ça veut dire ceci », et vous vous rendez compte que non, en fait c'est faux, parce que partout ailleurs il n'est pas traduit comme cela. Et on voit donc que là, c'est éclairé. Mais on va voir aussi que ailleurs, bon, c'est révélation, mais ça va être aussi la manifestation, par exemple. Voilà, la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Donc voilà, juste, je referme la parenthèse hein, pour le numéro strong. Et vraiment, si vous voulez étudier la Bible, c'est un outil qui peut vous aider. C'est juste un outil, mais ça peut vraiment vous aider. Alors, je reviens ici.
Tu peux donner le nom du lien
pour... Pardon ?
Tu peux donner le nom du lien pour ceux qui...
Alors là, c'était MCTV, mais on l'a sur plein de sites différents. Hein. Il faut simplement taper sur votre moteur de recherche « Bible numéro strong ». Et voilà, là, c'est cool. Alors voilà, je me remets avec mon écran que je puisse voir un petit peu mes notes. Oui, c'est pas ce que je voulais. Sinon, il va falloir que je t'appelle pour que tu viennes m'aider. Ouais, parce que là, j'ai plus rien. Dupliquer. Alors, étendre pourtant. Pourtant, ça serait étendre.
C'est dupliquer une fois. Là, sur les deux.
Ouais, sauf que le problème, c'est que je veux ici l'avoir sur autre chose.
Ah, tu veux ici. Ouais. Là, tu veux voir autre chose.
Ouais, je veux ici avoir mes notes, donc... Ça vous montre que je suis près de la retraite. Et là, attends, je vais me prendre mes trucs. Désolé.
Là, tu...
Ça, c'est le PowerPoint, et moi, je me prends ça, ici, je le mets en écran.
Oui, mais du coup, non, pas ici. C'est ok, il n'est pas en libéré. Ah, là, c'est toujours un copier.
Merci, super. Voilà, alors je reprends, je me remets sur mon PowerPoint. Je vois plus ma souris, bon, on ne fait rien, on va se débrouiller. Non, décidément, je n'aurais pas dû vous montrer les numéros Strong.
C'est le nom de la voix.
De nouveau avoir besoin de toi, je pense.
Viens Pascal, viens Pascal à côté.
Donc voilà, ce verset, on l'a vu, donc on était dans la signification d'Apocalypse. Alors une définition aussi que l'on trouve, c'est mise à nu, mettre à nu, enlever, c'était employé pour enlever le voile qui cachait un objet. Alors, si on s'intéresse un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de philosophies qui affirme qu'il est impossible, alors on ne parle pas de Dieu, mais de l'être infini, d'autres noms aussi, le Créateur puisse se révéler. Et il y a beaucoup d'arguments, comment l'infini pourrait-il être révélé à des êtres qui sont tellement limités comme nous. Pourtant, la parole de Dieu est absolument claire à ce sujet. Et il est évident que c'est Dieu qui se révèle. Et si vous prenez dans 1 Corinthiens au chapitre 2, décidément, j'ai pas de chance. Hein. Voilà, 1 Corinthiens 2 et verset 11, parce que quelqu'un veut bien le lire.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu.
Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit de Dieu qui permet notre connaissance du Seigneur. Irénée de Lyon a dit ceci : le Seigneur nous enseigne que personne ne connaît Dieu si Dieu lui-même n'est pas son instructeur. C'est-à-dire que sans Dieu, Dieu reste inconnu. Il faut que Dieu soit notre instructeur. Et on voit dans la parole de Dieu qu'il se laisse trouver par celui qu'il cherche. Et Dieu se révèle, et il se révèle dans toutes ses facettes. Juste quelques exemples. Dans Jérémie, au chapitre 16, verset 21, on voit, je vous le lis, hein, c'est pourquoi je la ferai connaître, oui cette fois, je la ferai connaître ma force et ma puissance. Ils seront alors que je suis l'Éternel. Donc là, Dieu parle de se révéler au niveau de Dieu Tout-Puissant. Et on connaît aussi ces passages qui nous disent que les hommes vont rendre l'âme de terreur vis-à-vis de la puissance de Dieu et vont même dire aux montagnes, tombez sur nous. Donc Dieu se révèle dans sa puissance, l'homme est terrorisé. Dans Ézéchiel, au chapitre 38, à chaque fois, il faut que je revienne en fait. Non. Je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis, désolé. Ézéchiel, chapitre 38, et le verset. Désolé, ça me perturbe ça. Oui, chapitre 38, verset 23, Dieu va manifester, il va dire, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Donc Dieu se révèle sous la facette du Dieu trois fois saint. Et dans Hébreux, il y a ce rappel de ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël qui était terrorisé et qui ne voulaient même plus entendre les paroles de Dieu parce qu'ils avaient entendu que même si une bête s'approche de la montagne, eh bien, elle va mourir. Et donc, devant la sainteté de Dieu qui se révélait, le peuple était terrorisé. Et puis, quelque chose de merveilleux, Jean 14, 21, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment merveilleux aussi, de savoir que également Dieu, le Dieu d'amour, se révèle aussi dans son amour. Donc voilà un petit peu notions sur la nécessité. C'est absolument impossible pour nous de nous approcher de Dieu et de le connaître si Dieu ne fait pas le premier pas. Et c'est ce que Dieu fait. Alors par contre, il y a des limites dans la révélation de Dieu. On connaît ce passage l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle à Moïse et que Moïse lui dit « Fais-moi voir ta face ». Et Dieu va lui répondre en lui disant « Eh bien, c'est pas possible parce que l'homme qui me voit ne peut pas vivre ». Donc rien que déjà là, on a des limites au niveau de la révélation de Dieu. Mais je voudrais vous montrer un autre passage que je trouve aussi très instructif. C'est dans Actes au chapitre 17, les versets 23, et on va lire jusqu'au verset 27. Ici, c'est marqué verset 31, mais on va lire jusqu'au verset 27. Essayez de résister, alors peut-être que vous le connaissez par cœur, et même si on ne le lit pas, vous allez vous remémorer les paroles, mais essayez de résister simplement à l'envie de lire la suite. Je vous fais un petit truc difficile, là. Donc, acte 17, 23. Alors, je le lis. Comme ça, je m'arrête au bon endroit. Donc, c'est Paul. Hein, s'entretenait dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient, « Il semble être un prédicateur de divinité étrangère. »
C'est pas la bonne.
Tu n'as pas donné la bonne. Je ne sais pas. J'arrivais pas trop à comprendre.
C'est toi qui
as donné la bonne.
17-23. Parce que 17-23, c'est pas ça.
Merci. Je suis allé trop bas. Donc je reprends. Voilà. Acte 17-23. Oui. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Donc c'est Paul qui commence à s'énerver à Athènes. Voilà. J'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. J'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et qui fait toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure afin qu'ils cherchent Dieu. Et on s'arrête là. Donc, Paul explique que Dieu a tout prévu pour que les hommes cherchent Dieu. Et ça, on le compare maintenant avec un autre verset que nous trouvons dans Romains, le chapitre 3, le verset 12. Je vous le cite. « Tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. » Alors, il se contredit là, Paul. D'un côté, il nous dit que Dieu a permis que tous, tous les hommes, sur toute la surface de la terre, quel qu'il soit, juif ou païen, le cherchent. Et puis ici, il nous dit que nul ne cherche Dieu. Donc il y a contradiction. Mais on a l'explication, et c'est ça qui est vraiment très important, ça nous montre les limites de la révélation. On a l'explication avec la suite dans Actes chapitre 17, et j'essaie de ne pas me tromper, verset 27, « Afin qu'il cherche Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant, or il n'est pas loin de chacun de nous. » Donc Dieu a fait que tous les hommes le cherchent mais en tâtonnant. Et on peut se poser la question, mais pourquoi cela ? Donc Dieu va se révéler, mais avec des limites. Et les hommes vont devoir faire des efforts pour le trouver. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très important et qui nous donne une bonne explication sur peut-être des questions que l'on peut avoir. En fait, dit autrement, Dieu donne à chacun une révélation suffisante pour que chacun ne puisse dire, hein, ou ne puisse pas dire, il ne s'est pas révélé à moi. Donc si je ne l'ai pas accepté, c'est parce qu'il ne s'est pas révélé. Donc j'ai des excuses. Non, Dieu donne une révélation suffisante pour cela. Mais en même temps, il donne aussi assez d'ombre, on va dire, pour que celui qui ne veut pas l'accepter puisse rester sur sa position. Il est évident que si Dieu se révélait d'une manière éclatante, l'homme n'aurait plus le choix. Mais en faisant ainsi, l'homme est parfaitement libre de choisir s'il accepte ou non la vie qui est devant lui. Et quelque part, ça c'est aussi appuyé par exemple, un verset, une parole de Jésus. Une parole de Jésus dans les évangiles, je ne me la suis pas marquée, mais je vous la donne. Peut-être que quelques-uns vont la trouver. Jésus va dire, à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Celui à qui on a beaucoup donné, s'il ne suit pas ce qu'on lui a demandé, sera puni d'un grand nombre de coups. Par contre, à celui à qui on n'a pas beaucoup donné, il sera puni de peu de coups. Donc, on voit finalement que Dieu fait du sur-mesure. C'est pas du prêt-à-porter. Et pour chacun, il va apporter une révélation suffisante pour que cette personne-là puisse avoir ce choix, en toute liberté, de l'accepter ou de le refuser. Et ça veut dire aussi que ceux qui ont une révélation conséquente, ont une énorme responsabilité. Et donc nos pays, dits christianisés, et nous qui avons donc toutes ces versions de la parole de Dieu, tous ces outils, on a une énorme responsabilité. Les enfants de chrétiens aussi, qui ont été déjà au biberon, nourris avec la parole de Dieu, ont une énorme responsabilité. Mais voilà, un éclairage sur les limites de la révélation, et qui peut après aussi, et que l'on utilisera aussi pour expliquer d'autres points de vue, mais ça sera pour beaucoup plus tard. Donc voilà, est-ce que vous voulez sur ce point-là rajouter quelque chose ?
Il y a aussi un verset qui dit les choses, je n'ai pas la référence, les choses révélées sont pour nous et nos enfants,
oui.
Les choses cachées sont pour l'Éternel. Oui. Donc Dieu, de toute façon, ne pourrait pas se révéler totalement, puisque l'homme est incapable de voir Dieu, de connaître toute l'étendue de Dieu, c'est pas possible. Mm. Donc c'est pour ça que aussi il a donné la lumière suffisante pour que nous puissions nous déterminer en fonction de cette lumière que nous avons reçue.
C'est ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est Pascal, alors...
Pas moi.
Pas la mienne, qui a justement quelque chose de très très intéressant là-dessus, qu'il développe, Dieu en tant que Dieu caché, mais Dieu aussi qui se révèle. Et il y a vraiment tout un travail de Pascal à ce sujet qui est aussi vraiment précieux et très encourageant aussi. Alors, maintenant on va voir les limites de la révélation. Non, on l'a vu. On va voir la révélation par la création. Donc là aussi, on va juste survoler. On va juste survoler la chose parce que il y a énormément de choses à dire. C'est vraiment très très intéressant. Je pense que Jean, tu en parleras sans doute plus longuement. Plus longuement entre guillemets. Vous rappelez les études d'Alain il n'y a pas si longtemps que ça aussi, et qui étaient vraiment encourageantes. Mais on peut lire quand même le psaume 19. Les premiers versets. Alors, la première personne qui trouve, vous pouvez le lire.
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a adressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur.
Voilà. Là, c'est quand même assez parlant, et c'est vrai, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et je suis sûr que tous, vous avez tous songé à cela, un soir avec une nuit étoilée, quand vous voyez l'immensité. Et alors, là, à l'époque, la connaissance, la croyance, c'était que le ciel était une voûte sur laquelle étaient suspendus les astres. Donc, c'était immense, mais c'était quand même limité. Et nous, on sait que c'est gigantesque. Et les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand on voit cela, comment ne pas se poser la question d'un créateur? Quand on voit la puissance de l'océan aussi, comment ne pas se poser la question d'un créateur? Ou alors les montagnes. Et on va dire, alors dans ce cas, celui qui habite en ville, qui ne sort jamais, mais tout nous montre la puissance et vraiment la sagesse de notre créateur. L'autre jour, j'avais rentré des figues pour mon père, et puis il y avait des petites bestioles là, comme des moucherons, mais minuscules. Mais ils allaient à une vitesse, soit en marchant, soit en volant, une vitesse extraordinaire. Et puis on disait, mais bon, l'homme avec sa technologie, il peut courir, hein, parce que là, le réflexe, là, le cerveau doit être minuscule, et pourtant, il réagissait en un dixième de seconde. Il n'y avait pas moyen de les attraper. Mais, voilà la sagesse de notre Créateur. Et même si vous regardez un reportage sur la nature, là aussi, on s'émerveille, et on pense immédiatement au Créateur. Et il y a un verset qui est important aussi pour cela, et qu'il faut lire, c'est dans Romains, au chapitre 1 et au verset 20. Je ne sais pas ce que j'ai mis. Romains chapitre 1, verset 20. Si quelqu'un veut le lire aussi.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables.
Voilà, ils sont donc inexcusables. On va en reparler. Mais on voit que la création, c'est quand même vraiment une révélation de notre Dieu. Et malheureusement, on se rend compte que cette création, cette révélation, va passer inaperçue. Je ne sais pas si vous connaissez le marquis de la Place. Il a dit ceci. Alors, il a rendu un travail à Bonaparte. C'était donc un mathématicien, un astronome aussi, quelqu'un de remarquable. Et Bonaparte lui a posé la question, mais Dieu dans tout ça? Il a répondu, Dieu, c'est une hypothèse dont je n'ai pas besoin. Donc voilà, avec beaucoup d'orgueil. Alors, quand même pour vous dire pourquoi je vous donne cet exemple, parce que c'était quand même quelqu'un de particulièrement détestable, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui a mis en place les impôts locaux. Donc on voit un petit peu, on voit quelqu'un qui fait ça, c'est pas quelqu'un de recommandable, c'est pas possible. Mais on le met en rapport aussi, on a parlé beaucoup là de ce livre qui est sorti de Bolloré, de Bonassis, Dieu, La science et l'épreuve, merci. Donc c'est un très très gros pavé qui est intéressant. Où là notamment les auteurs vont mettre en avant l'expansion de l'univers, donc le Big Bang. Ils disent puisque l'univers est en expansion, ça prouve qu'il y a eu un commencement. Donc s'il y a eu un commencement, c'est qu'il n'est pas éternel. Donc c'est qu'il y a eu un créateur qui lui est transcendant, est éternel. Donc voilà, ils mettent ça aussi en avant. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans leur livre. Si vous n'aimez pas trop lire, il y a un livre qui ressemble énormément, qui est tout petit. Alors, ce sont peut-être des auteurs qui sont sujets à polémique. Ce sont les frères Bogdanov. Donc, bon, on apprécie, on n'apprécie pas. Mais là, ils ont fait un livre qui s'appelle La fin du hasard. Et qui est intéressant parce qu'il est vite lu et il recense, c'est un gros travail, il recense un petit peu comme ont fait Bolloré et Bonassis. Il ressemble énormément de citations de scientifiques qui disent oui, il y a un créateur. Avec ce qu'on a découvert, il est impossible qu'il n'y ait pas un créateur. Donc il est vite lu et ça peut être intéressant aussi de le prendre. Mais malgré tout, Là aussi, je lisais il y a quelque temps un livre d'André Frossard, que vous connaissez. Là aussi, on ne va pas forcément le recommander, mais il disait quelque chose d'important dans Dieu en question. Il disait « Une évidence scientifique d'aujourd'hui peut tout à fait devenir absurde demain. » Et ce qui est important pour le chrétien, c'est ne pas chercher à avoir des confirmations de la parole ailleurs que dans la parole. Il y a Serge Tarasenko, qui est un chrétien, un scientifique, et qui aurait pu amener le débat sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Et lui, il ne va pas du tout dans ce sens-là. Il fait des conférences qui s'intitulent toutes « Dieu ne se prouve pas, il se rencontre ». Et je pense que pour le chrétien, c'est vraiment important de ne pas chercher forcément des preuves scientifiques, mais on appréhende Dieu par la foi. Et Dieu se révèle par la foi. Et l'important, c'est de rencontrer Dieu. Et Dieu va se rencontrer, en particulier aussi, dans sa parole. Alors, autre chose aussi, des questions qui peuvent aussi venir à l'esprit. Vous connaissez cette citation de Voltaire, « L'univers m'embarrasse, je ne puis concevoir que cette horloge n'est pas d'horloger ». On connaît tous cette citation. Alors, je lisais aussi un livre, c'est André Comte Sponville. Tu connais, je vois, tu as fait, oui, oui. Alors, lui, il est athée, et le livre s'appelle « L'esprit de l'athéisme ». Donc, c'est toujours intéressant quand même d'avoir des points de vue. Et alors, il est athée, il n'est pas agnostique, donc lui, il a choisi de ne pas croire en Dieu. Et c'est un choix, il explique aussi. L'agnostique, lui, il va dire « ça, je ne le comprends pas, je ne le vois pas, donc je ne me positionne pas. Je ne me positionne que sur des choses que je vais comprendre et appréhender. » Celui qui est athée, hein, donc sans Dieu, lui, il choisit de ne pas croire en Dieu. Puisque Dieu ne se prouve pas, son existence ne peut pas se prouver, mais son inexistence non plus. Donc il fait le choix de ne pas croire en Dieu, il est athée. Mais c'est quand même intéressant ce qu'il dit, parce qu'il reprend, hein, donc je reviens à la citation de Voltaire. Il reprend cette citation, et il dit ceci. Il dit « L'argument de l'horloge doit être pris au sérieux, parce que l'univers, ou l'une des quelconques de ses parties, la moindre fleur par exemple, est d'une complexité bien plus grande que cette montre. Il faut donc leur supposer, comme dans le cas de la montre, et a fortiori, un auteur intelligent et volontaire qui ne peut être, puisqu'il s'agit d'expliquer l'univers, que Dieu. » Donc déjà là, hein, c'est bizarre ce qu'il dit. Il va plus loin. Donc il pense avoir un argument. Il dit « Cette théorie fait peu de cas des désordres, des horreurs, des dysfonctionnements qui sont innombrables. Par exemple, une tumeur cancéreuse. C'est aussi une sorte de minuterie. En quoi cela prouve-t-il que tumeur ou cataclysme révèle d'un dessein intelligent et bienveillant ? Qu'est-ce qu'il dit là finalement ? Il doute d'un Dieu bienveillant. Mais quelque part, en trame, eh bien, il est obligé aussi d'accepter qu'il y a un créateur. Donc c'est quand même assez intéressant. Et pourquoi il doute d'un Dieu bienveillant ? Parce qu'il n'a pas lu la parole de Dieu, notamment Romains chapitre 8, verset 20, qui nous dit que la création a été soumise à la vanité. Et elle attend, elle aussi, elle soupire, elle souffre comme des douleurs d'enfantement. Donc, voilà, la Bible nous explique ce qui se passe. Et pourquoi il y a des choses tellement difficiles à vivre ? Pourquoi ? Eh bien, parce que la création, tout simplement, a été soumise à la vanité. On prête à Einstein cette explication. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, je n'ai pas pu le vérifier, je n'ai pas trouvé. Il va dire, quelqu'un qui lui posait donc la question du mal, pourquoi le mal sur la Terre ? Eh bien, il va dire, le froid, c'est quoi ? C'est l'absence de chaleur. Le froid, il n'y a pas d'autre explication. Genre, c'est, je crois, de moins de 250, c'est ça, peut-être ? Voilà. Bon. Mais bon, peu importe, hein. C'est l'absence de chaleur. Voilà. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et puis lui, il dit, le mal, c'est l'absence de Dieu. Et ça peut être aussi une compréhension. Voilà donc une autre forme de révélation qui est également à notre disposition et qui, quelque part, on se rend compte, sert, va plutôt condamner l'être humain. Et on l'a vu avec Romains chapitre 1 qui dit « Ils sont donc inexcusables ». En ayant tout ça sous les yeux, ils sont inexcusables parce qu'ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Et ils n'ont pas pensé que, effectivement, derrière toute cette merveille, il y a un créateur qui est bienveillant, parce qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il donne à tous la respiration et l'être. Et c'est vrai qu'on se focalise des fois sur les difficultés qui sont la conséquence de la chute, mais on oublie aussi de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Alors on va passer par une autre révélation, qui est la révélation par la conscience. Je vous note tous les versets directement, parce que là j'ai un petit peu de mal avec mon engin. La révélation par la conscience. On va quand même lire dans Romains chapitre 2, versets 14 à 16, parce que c'est vraiment aussi un passage qui est intéressant. Donc si quelqu'un l'a, il le lit. Version semeur, très bien.
14 à 7. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent au lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché.
Voilà, merci. Donc les païens qui n'ont pas la loi font naturellement. Donc là déjà, c'est quelque chose qui nous éclaire. Et on voit que naturellement, dans le cœur de l'homme, il y a quand même cette notion, même si elle est très vague, de bien et de mal. Donc il y a déjà quelque chose. Et il y a aussi ce verset d'Ecclésiaste, « Dieu fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, l'homme ne peut pas la saisir, mais au fond de lui, il y a quand même quelque chose. Et combien de personnes, ne croyant en rien, se sont quand même interrogées lorsqu'ils ont assisté à des obsèques, et se dire quand même, c'est trop bête que ça s'arrête ainsi. Pourquoi ? Parce que dans le cœur, au fond, il y a cette pensée de l'éternité. Simplement, cette conscience, elle va fonctionner de façon vraiment très très imparfaite. Et en fonction du milieu culturel, eh bien, les notions de bien et de mal sont totalement différentes. Et il y a beaucoup d'exemples, bon j'en ai en tête, mais je ne vais pas vous les donner, mais vraiment, où que l'on soit, le bien ne sera pas la même chose hein, en fonction de la culture, de l'ambiance, du niveau culturel que l'on va avoir. Le bien et le mal, dans le cœur de l'homme, vraiment ça fluctue. Et on est vraiment aussi souvent confronté à l'endurcissement. Parce que ce que l'on ressent hein, comme n'étant pas une chose correcte, mais si on continue petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça passe inaperçu. Pourquoi? Parce que cette conscience s'endurcit. Et on le voit aussi dans la parole de Dieu, que le cœur petit à petit s'endurcit et à la fin, il n'est pas entendu. Et certains vont dire c'est la voix de Dieu en nous. Non, je ne crois pas. Hein, je ne pense pas que ce soit la voix de Dieu en nous. Mais c'est quelque chose qui nous permet quand même de savoir que eh bien, la notion de bien et de mal, ce n'est pas quelque chose vraiment voilà, qui est hors de notre portée. Vous connaissez ce passage d'Ésaïe qui nous dit que eh bien, les gens appellent le bien mal et le mal bien. Donc vraiment la conscience est quelque chose, est une révélation, mais vraiment une révélation qui est très imparfaite. Et même cette loi que nous avons dans le cœur, on est de toute façon incapable de l'accomplir. Donc là aussi, c'est quelque chose voilà, qui est là, qui existe et qu'il faut mentionner. Et puis après, il y a des révélations particulières. Donc juste là, après on s'arrêtera là-dessus. Il y a des révélations particulières, entre autres des révélations que nous trouvons dans la parole de Dieu. Amos chapitre 3, verset 7. C'est vraiment un verset qui est très important. Il n'y a pas longtemps que je l'ai remarqué. Et moi, il m'a vraiment parlé. Il s'agit du peuple d'Israël, et donc des prophètes au niveau du peuple d'Israël. Et le Seigneur va dire par Amos, « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc c'est quand même extraordinaire. que le Dieu dit à Israël, voilà, je ne fais rien sans vous l'avoir révélé. Et combien ça, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Je vous mets là aussi tous les versets, ça me permet de ne pas trop batailler. Et on voit vraiment que la révélation dans l'Ancien Testament, elle était surtout au niveau d'un peuple, du peuple d'Israël. Et tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu s'est révélé à ce peuple. Et je lisais dans un livre de Jules Marcel-Nicole, le précis de théologie biblique, quelque chose d'intéressant. Il disait qu'en fait, Dieu s'est révélé à son peuple de façon progressive. Par exemple, lorsqu'on prend les patriarches, on voit que Dieu s'est révélé entièrement, mais surtout comme étant le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, comme étant le Tout-Puissant. Et puis ensuite, après la sortie d'Égypte, Dieu s'est révélé à son peuple comme étant le Dieu fidèle à son alliance. Et puis après, on le voit aussi notamment dans les psaumes, dans les prophètes, Dieu a révélé la venue du Messie. Et on voit vraiment qu'il y a une progression. On va dire par exemple le tabernacle nous révèle le Messie. Mais pour nous c'est facile. Hein. On a le Nouveau, l'Ancien Testament, donc c'est facile de le voir. Mais voilà, Dieu s'est révélé de façon progressive à son peuple. Et puis on voit qu'il va se révéler d'une diversité de manières. C'est vraiment là aussi extraordinaire. Donc là, vous avez les versets. Je vous les donne. En Genèse 15, verset 1, c'est Dieu qui se révèle à Abraham dans une vision. Exode 3, 4, c'est à Moïse, c'est le buisson ardent par lequel Dieu se révèle. Nombre 12, 5, Dieu va parler à Aaron et à Marie au travers de la nuée. Et puis à Samuel, vous connaissez dans 1 Samuel, 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 et puis parle et ton serviteur écoute. Quand Nathan a péché, il s'est révélé David. Quand David a péché, il s'est révélé à lui par Nathan le prophète. Mais bon, ce qui est vraiment de merveilleux, c'est ce passage que je vous ai mis dans Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement beau aussi, de pouvoir lire cela. Et Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc voilà, Dieu parle de plusieurs manières. Une manière dont Dieu parle, c'est quoi? Surtout dans les évangiles, dans le tout début des actes des apôtres, mais aussi dans l'Ancien Testament, bien sûr. Les miracles. Là aussi, c'est une façon que Dieu va utiliser pour se révéler. Mais force est de constater que, malheureusement, le cœur de l'homme est endurci, et ces miracles qui pourtant pourraient être vraiment un moyen pour s'approcher de Dieu, souvent ils ont l'effet inverse. Songez aux 10 plaies d'Égypte. Alors, toutes ces plaies d'Égypte, c'est en fait une attaque sur les fausses divinités du peuple. Et pourtant, c'est l'endurcissement qui se met en marche. Voilà. Élie, on l'a vu il n'y a pas longtemps, là aussi des miracles extraordinaires. Et pourtant, est-ce que le peuple va suivre Élie? Eh bien non. Et dans Jean chapitre 12, verset 37, je ne vous l'ai pas mis. Voyons si je peux vous le mettre. Voilà. Même un autre. Voilà, dans Jean chapitre 12, verset 37, Jésus va s'entretenir avec la foule et nous dit, malgré tous les miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et un peu plus loin, en Jean 14, 11, c'est Jésus qui s'adresse, qui dit, mais croyez au moins en cause des miracles que j'ai fait devant vous. Même si vous ne croyez pas mes paroles, mais au moins croyez avec les miracles que j'ai fait devant vous. Et autre chose aussi, le récit de Lazare et du mauvais riche. Lorsque le mauvais riche s'adresse à Abraham et dit, Père Abraham, envoie Lazare, parce que si quelqu'un ressuscite, ils vont croire. Et qu'est-ce que va répondre Abraham? Non, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, mais si quelqu'un ressuscite, un miracle pareil, ils vont croire. Et Abraham dit, mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas même si quelqu'un ressuscite. Et malheureusement, combien on voit l'endurcissement du cœur de l'homme avec des miracles, et pourtant, eh bien, il y a une incrédulité. Et on a été témoin de miracles. On a été témoin de choses où on sait que c'est Dieu qui est intervenu. Et ça n'a pas été toujours suivi après par un changement d'attitude de la part de ceux qui ont vu ces miracles. Combien cela aussi est dommage. Combien cela est dommage. Job va dire, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Et vraiment que nous puissions prendre garde à cela, prendre garde à Dieu qui se révèle et qui nous parle. Alors, on va arrêter là. Je pensais arriver à la révélation au niveau des Écritures et l'inspiration des Écritures, mais Dieu voulant, on le verra la prochaine fois. Je vois que l'heure est avancée, on le verra la prochaine fois en essayant de voir le canon. Si jamais on ne peut pas tout voir, révélation, la parole vraiment inspirée, la Bible, c'est la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas simplement la parole, c'est pas simplement un livre qui contient la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Donc ça, c'est important aussi de le voir. Le canon aussi, pourquoi il y a ces livres et pas d'autres. Certaines règles d'interprétation, peut-être aussi, les traductions, mais je crois que peut-être on ne pourra pas tout voir. Donc je peux le mettre dans un ordre, peu importe. Qu'est-ce que vous préféreriez ? L'inspiration, le canon ? Et après, ça vous est égal.
Est-ce que tu appelles le canon?
Pourquoi il y a 66 livres dans la Bible, tu vois? Pourquoi les catholiques en ont avantage? Les orthodoxes encore plus, je crois 79, je crois certains. Voilà, tu vois. Pour quelles raisons nous, eh bien, on va se baser sur certains livres, et puis d'autres, on va dire non, là, ils ne sont pas inspirés. Ça, c'est intéressant, mais on verra ça, d'accord, on verra ça, donc Révélation, le canon, et puis si on a le temps, les versions ou quelques règles d'interprétation, voilà, on verra, vous me direz. Comme ça, voilà, c'est le menu.
Au choix.
Au choix, oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut terminer en priant?
Seigneur notre Dieu, nous voulons ce soir te rendre grâce parce que te révèle à chacun de nous à travers ta parole qui est à redouter. Nous pouvons voir, Seigneur, que c'est vrai, comme nous dit ce passage dans Romains, ils sont inexcusables. Parce que, Seigneur, tu te révèles, que ce soit à travers la création, que ce soit à travers ta personne, Seigneur, et nous ne prenons pas garde. Merci de ce que nous avons pu entendre encore ce soir, de ce que toi tu es. Et nous voulons, Seigneur, vraiment regarder à toi, te demander et te dire merci, Seigneur, parce que c'est vrai que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous approcher de toi, nous ne pouvons pas te connaître, mais c'est toi qui te révèles à nous. Et nous te disons merci et te prions que vraiment nous puissions apprendre toujours davantage de toi en te révélant dans nos cœurs, dans nos vies, et que nos vies, Seigneur, puissent aussi t'honorer, te glorifier. De savoir que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous semble si loin, si lointain, si infini, si grand. Eh bien, Seigneur, tu es venu dans la personne de Jésus-Christ, justement, te révéler, et tu es venu nous donner le salut. Tout ça par amour, Seigneur, et nous voulons être reconnaissants de cela. Merci encore de cette liberté que nous avons de pouvoir être autour de ta parole, de pouvoir l'étudier, alors que nous savons, c'est vrai, qu'il y a des pays où ils sont privés de la vérité, de ta parole. Seigneur, nous avons une pensée pour eux, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui sont persécutés. Et Seigneur, combien nous réjouissons de ce privilège que nous avons eu, de ce trésor que tu as mis devant nous. Et merci de te révéler encore toujours davantage dans nos cœurs. Tout cela, nous te demandons au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen.
Bon retour à chacun.
Merci.